mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Eh bien, nous continuons notre réflexion sur la culture générale, que je fais à partir de mon livre « Comprendre la culture générale » paru chez Ellipse à Paris, il y a un certain nombre d'années maintenant, mais toujours disponible en librairie. Alors, où en sommes-nous? Nous en sommes au chapitre 9, que j'ai intitulé « Typologie des constructions symboliques ». Je rappelle que la notion de construction symbolique est la notion essentielle de mon ouvrage. Il me semble que toute culture s'édifie par adhésion à des constructions symboliques partagées en commun. Ensuite, s'éveille l'intelligence au sein des cultures et ces constructions symboliques peuvent être contestées. Alors que se passe-t-il? Déculturation, etc. Nous le verrons lors des prochaines émissions. Alors, la typologie, c'est un principe de classement. Comment les classer, ces constructions? Eh bien, la dernière fois, nous avions dit qu'on pouvait parler de culture féminine et de culture masculine. Et je vais continuer à analyser cette bipolarité féminin-masculin qui me semble est un principe de classement ou de taxinomie, comme on dit, taxis en grec c'est l'ordre, hein, de classement de ces fameuses constructions. Alors, la femme, finalement, face à l'homme, de tout temps, lui a fait peur. Pourquoi? Par l'exclusivité de son désir. On l'a décrété hystérique, par exemple. Voyez la sorcière de Michelet pour cette diabolisation de la femme. Et effectivement, par exemple, dans la relation amoureuse, elle se fixe sur son objet qui résume pour elle tout le reste. À cet égard, comme le dit Marguerite Duras dans Le ravissement de Lolvestein, si elle n'est pas Dieu, elle n'est rien. Vous voyez? Alors, si l'homme, au contraire, cherche la femme idéale en toutes les femmes qu'il rencontre, la femme, au contraire, réunit tous les hommes dans l'homme qu'elle aime. Donc, l'homme est, selon le mot de Jacques Lacan, condamné à la perversion, et la seconde serait, dans cette façon de voir, condamnée alors à la psychose. On dit que toutes les femmes sont folles, sont les hommes qui disent cela, hein. L'homme confronte un être et une image. Il est sidéré par une image, l'image de l'anima, j'y reviendrai, l'anima jungienne, hein, et il est fasciné par cette image qu'il ne cherche pas forcément à toucher, hein, tandis que la femme va se fixer irrévocablement sur un être, hein, toute faculté confondue, et la femme, elle, va chercher non pas la sidération, mais une véritable histoire, une véritable aventure, un contact. Hein. Un jour, mon prince viendra. Voilà. La femme cherche à rencontrer, alors que l'homme, lui, fasciné par l'archétype de son idéal féminin, de son éternel féminin, dont Goethe nous dit à la fin du second Faust, toujours l'éternel féminin vers le haut nous attire, hein, l'homme ne cherche pas forcément ce contact. Alors, perversion masculine et, au contraire, fixation, obnubilation féminine et recherche d'un contact. D'ailleurs, je crois que j'avais dit lors d'une précédente émission qu'il suffit de regarder dans la cour d'une école maternelle comment les petits garçons et les petites filles se comportent, et ils se comportent différemment. Les petits garçons, justement, se battent la plupart du temps comme des petits animaux instinctuels, hein, et les petites filles cherchent un contact par le langage. Elles discutent entre elles, par exemple, vous voyez. Donc, prenons la psyché masculine. Il se passe au sein de cette psyché ce que j'appellerais une disjonction du désir et de l'amour. Elle est fréquente chez l'homme, elle est fruit peut-être de la situation que l'on dit œdipienne, c'est-à-dire de la fixation idéalisée à la mère, et du fait de la prohibition de l'inceste dans la civilisation occidentale, il est interdit justement de s'unir à sa mère. Cette disjonction entre le désir justement et le sentiment n'existe pas, me semble-t-il, autant chez la femme. Je dis bien, me semble-t-il, pour ne choquer personne. Je sais bien que l'on peut me critiquer d'idéaliser, mais d'essentialiser le féminin, l'idéaliser aussi, hein, on le verra. Hein. Je sais bien que mon discours n'est pas très à la mode aujourd'hui. Mais enfin, bon, je pense que on peut le tenir. Hein. Alors, toujours dans cette optique, l'homme va distinguer les femmes qu'il aime et celles qu'il désire. Donc, il va les partager en deux catégories. Les femmes qu'il aime, il ne les désire pas. Il projette son anima sur elles. Hein. L'anima doit rester lointaine. Et les femmes qu'il désire, il ne les aime pas. Et parfois même, l'homme a besoin de mépriser pour désirer. Alors, je ne sais pas si ce schéma existe de la même façon chez l'autre sexe. Une femme amoureuse, me semble-t-il, hein, s'implique totalement dans sa passion. Elle implique son corps, son âme, son imaginaire, etc. D'où l'impression de folie et de possession qu'elle donne. Et les cultures viriles, masculines, s'effraient de cette fixation, de cette obnubilation, c'est-à-dire recouvrement par un nuage, obnubilation, au sens latin. Donc la femme, elle est éros, hein, et l'homme, il est plutôt logos. La passion dévorante, définitive et exigeant la fidélité, voilà, me semble-t-il, le pôle féminin de l'être, qui est incarné par exemple par le mythe de Tristan et Iseut. Et au contraire, le mythe de Don Juan est masculin. C'est un mythe du chatoiement des images devant le regard, métamorphose successive de l'anima du héros, hein, ces images, voyez. La femme retient et l'homme poursuit. Femme est ce qui dans l'homme retient les choses, homme est ce qui les conquiert. Il y a une exigence de fidélité chez la femme. Voyez par exemple, on ne badine pas avec l'amour de Musset, voyez le discours de Camille dans cette pièce, hein. Que l'homme soit fidèle, voilà ce que veut la femme. Je pense aussi au grand petit film de Patrice Lecomte, Le mari de la coiffeuse, hein, où la coiffeuse, l'héroïne du film, n'admet pas que la passion un jour puisse disparaître. Voyez aussi les chansons de Piaf pour l'exigence de fidélité féminine. Et au contraire, on pourrait dire, je dis toujours avec prudence, je ne sais pas d'ailleurs si moi-même je suis significatif du masculin. On pourrait dire qu'il y a un nomadisme de l'homme, que l'on voit par exemple dans le roman de Milan Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être, ainsi que dans le film qui en a été tiré. Alors une culture machiste, phallocratique, va transformer cette différence en oppression. Et c'est ainsi que l'on voit dans la bouche d'Alma Viva, dans Le mariage de Figaro de Beaumarchais, la phrase suivante, « Notre rôle fut de vous obtenir, le vôtre est de nous retenir ». Bien entendu, c'est monstrueux cette phrase, hein, mais disons qu'elle pousse à l'extrême, peut-être le tropisme masculin de base. Alors bien sûr, il faut distinguer une opposition anthropologique, psycho-affective, l'opposition ou la différence entre masculin et féminin, et une utilisation sociale de cette opposition. Hein. Et cette utilisation sociale, elle est contingente et il faut la réévaluer ou la déconstruire. Mais il me semble que la première opposition, la différence psycho-affective entre l'homme et la femme, c'est quelque chose que l'on ne peut pas éluder. Et derrière tout cela, il y a la psychologie d'abord et la physiologie. Hommes et femmes, j'imagine qu'ils sont sur les deux rives d'un très large fleuve, très éloignés l'un de l'autre. Le désir n'est pas le même, les rythmes non plus, la chronologie des sensations, les visions du monde non plus. Il y a une disharmonie fondamentale, y compris dans l'orgasme, entre l'homme et la femme. Flaubert l'a dit, ou plutôt il l'a montré, hein, il l'a montré dans Madame Bovary, il l'a montré sans le dire, ce qui est bien mieux en littérature. Alors, il s'agit de l'épisode où Emma vient de s'abandonner à Rodolphe, son premier amant. Alors, elle est tout énamourée, j'aime bien ce mot, énamourée. Et donc, toutes les fibres de son être vibrent et la nature est à l'unisson. Hein. Alors, voici ce qu'écrit Flaubert à la fin de tout un passage où les modulations de l'orgasme d'Emma, justement, s'étendent, prennent une dimension cosmique. Voici la dernière phrase. Hein. Alors, Emma entendit un cri vague et prolongé. Et elle l'écoutait silencieusement dans une dernière vibration de ses nerfs émus. Point. Rodolphe, le cigare aux dents, raccommodait avec son canif une des deux brides cassées, les deux brides du cheval, vous voyez ? Donc là, on a vraiment très clairement la différence entre masculin et féminin. Elle entendit un cri, c'est-à-dire, bon, elle est dans ses fantasmes, dans ses rêves et dans ses sensations, les modulations de ses sensations, et elle l'écoutait. Alors là, il y a le passage du passé simple à l'imparfait qui est magnifique, hein, puisque le temps est immobilisé, c'est un arrêt sur image. Hein. Proust disait qu'il donnait toute l'œuvre de Kant pour un imparfait flaubertien de ce type, c'est-à-dire l'imparfait succédant au passé simple. Hein. Le passé simple, c'est le temps de l'action, et l'imparfait est éternise, immobilise. Hein. Au lieu de dire « comme il faisait beau, je sortis », Flaubert écrira « il fit beau, et je sortais ». Vous voyez. Donc cet imparfait, stylistiquement, est une merveille. Alors Emma est donc à l'écoute de ses sensations. Mais que fait Rodolphe ? Point. Rodolphe, le cigare aux dents, raccommodait avec son canif une des deux brides cassée. C'est-à-dire que pour lui, plus rien ne compte que de bricoler avec ses mains, faire quelque chose avec ses mains. Comme disait l'essayiste anglais Robert Graves, « Man does, woman is ». C'est-à-dire l'homme, il fait, il fabrique, il bricole hein, avec ses mains, et la femme, elle est dans les rythmes initiaux, les rythmes de la nature, elle vibre à l'unisson du monde, et finalement, elle n'a que faire de cette action qui pour elle serait une agitation. Voilà. Alors, ce passage de Madame Bovary nous montre justement la différence entre l'homme et la femme dans la relation amoureuse, y compris justement au sein même de sa dimension physique. D'ailleurs, le plaisir féminin, quand il existe, je dis bien quand il existe, hein, n'existe pas tout le temps, il est peut-être, et sûrement, je pense, hein, supérieur en intensité au plaisir masculin. Pourquoi ? Alors, on connaît l'histoire de Tirésias, qui avait été femme avant d'être un homme. Il avait connu, justement, l'état des deux sexes. Hein. Il avait participé, justement, du féminin et du masculin. Alors, la question qui lui était posée, c'est racontée dans les Métamorphoses d'Ovide. Hein. Qui des deux, l'homme ou la femme, a le plus grand plaisir dans l'amour physique ? Il avait répondu, « Oh, ben, il n'y a pas photo, comme on dit. Hein. » C'est évidemment la femme. Alors Junon, hein, comme dit Ovide, n'était pas contente, la femme de Jupiter, et alors elle a aveuglé Tirésias pour avoir révélé justement cette vérité. Je crois que Tirésias dit que sur une échelle de 1 à 10, la femme aurait 9 dixièmes justement du plaisir et l'homme simplement 1 dixième. Hein, bon. Alors, bien entendu, Jupiter n'a pas pu enlever la cécité de Tirésias, puisque Junon avait aveuglé Tirésias, mais pour compenser, Jupiter a donné à Tirésias la capacité de prédire l'avenir. C'était un devin. Hein. Donc là, une clé nous est donnée. Hein. Et bon, je pense qu'il faut en tenir compte. Hein. Et on verra justement les modulations de ces différences. L'homme me semble naturellement extraverti, impétueux dans ses désirs. Il est est feu, il est jour, hein. Et la femme, elle me semble plus introvertie, à l'écoute de ses sensations, à l'écoute de son corps. D'ailleurs, son corps se rappelle à elle très souvent, beaucoup plus que dans le cas de l'homme, hein. Donc la femme est plus introvertie, elle est plus stable, elle est plutôt l'eau de l'eau ou la nuit, vous voyez, à l'opposition du feu et du jour. Par exemple, toute la représentation du savoir humain en termes de vision est masculine. En toutes circonstances, l'homme veut voir beaucoup plus que la femme. Beaucoup de futures mères n'aiment pas, par exemple, les échographies, c'est-à-dire voir justement l'état du fœtus dans leur ventre, hein, parce que les fantasmes peuvent y disparaître. Hein, c'est une IVF, l'échographie, une interruption volontaire de fantasmes, hein, de voir justement le réel des choses. Il vaut mieux rêver sur les nativités en peinture, par exemple, qui nous instituent véritablement un humanité, tandis ce sont des fictions, hein, et les fictions sont plus, comment dire, anthropologiquement plus prégnantes que le réel. Mais l'homme est un être optique, hein, c'est-à-dire il est habité par ce que Jacques Lacan appelait la pulsion scopique, du grec scopein, qui veut dire regarder, hein. Alors que la femme serait plutôt du côté de l'aptique, H-A-P-T-I-Q-U-E, hein, c'est-à-dire aptestai, c'est toucher en grec. Hein, voilà. La vision masculine a rapport avec la prédation. Hein. Malraux, dans La condition humaine, nous montre bien cette différence. Lorsqu'un homme et une femme font l'amour, eh bien l'homme veut laisser la lumière allumée, la femme éteint la lumière. Et aussi, quand elle embrasse, elle ferme les yeux. Quant à l'homme qui est logos, l'homme, lui, il parle, mais la femme, non. Hein. Alors, voyez le fameux dialogue très connu, archétypal maintenant, de Quai des Brumes, le film de Marcel Carné, entre Gabin et Morgan. Hein. Gabin, lui, il parle, il dit « t'as de beaux yeux, tu sais », voilà, hein, bon, il parle. Et Morgan, elle ferme les yeux et elle dit « embrassez-moi ». Voilà la différence entre l'homme et la femme. L'homme parle, il se la joue, il se la raconte, etc. Et la femme ferme les yeux, puisqu'elle veut simplement ressentir au fond d'elle-même les choses. Hein. Donc je dirais que si l'homme est langage, la femme est plutôt silence. Mais attention, le silence antérieur à la parole ou le silence postérieur à la parole, nous y reviendrons. Hein. En somme, la femme, me semble-t-il, ne fait pas volontiers l'amour sans amour, ou au moins sans désir. Et chez l'homme, c'est différent, parfois simplement c'est mécanique. Je dirais, pour résumer cela, que l'homme est prêt à tout pour faire l'amour, y compris à aimer, tandis que la femme est prête à tout pour aimer, y compris à faire l'amour. C'est tout à fait différent. Alors, entre les sexes, il y a malheureusement depuis toujours une lutte. J'ai dit que la femme effrayait l'homme par l'intensité de son désir. Hegel disait « la femme est l'éternelle ironie de la communauté hein ». Bien entendu, il faut pas tirer de cela une leçon de supériorité et infériorité. Ce n'est pas de cela que je parle. Hein. Prenons la lutte des sexes. La lutte des sexes, on la voit dès le début de la théogonie d'Hésiode. Hésiode nous raconte qu'Ouranos, le ciel père, s'était uni à Gaïa, la terre mère. De cette union sacrée, que l'on appelle une hiérogamie, sont nés les titans. Les titans sont des forces dévastatrices. Alors Ouranos a jeté les titans dévastateurs dans le Tartare. Et je dirais que tout père aujourd'hui fait ainsi avec ses enfants, lorsqu'il les punit en les mettant au coin, par exemple. Quand les enfants chahutent trop, tu vas aller au coin ou dans le cabinet noir. C'était le cas autrefois. Maintenant, ça a peut-être changé. Hein. Mais alors, que fait Gaïa? Eh bien, Gaïa va libérer les titans, ses enfants, et elle va les inciter à la révolte. Et l'un d'eux, Cronos, va émasculer son père et le détrôner. Donc Gaïa a pris le parti de ses enfants contre Ouranos. Et pourquoi est-ce qu'elle l'a fait? Est-ce qu'elle a été forcée par Ouranos? Est-ce que l'hiérogamie dont j'ai parlé était un viol? Je ne sais pas. En tout cas, on voit que la haine des sexes commence avec l'apparition de la vie. Et elle accompagne ensuite la vie de chaque être humain et habite son inconscient. Alors on a interprété la théogonie d'Hésiode comme la lutte de deux principes l'attachement à l'esprit père, Uranos, et le désir de réunion à la matière mère, qui est Gaïa. Alors traditionnellement, on oppose ces deux versants de l'être, et on pourrait classer les modèles et les productions culturelles dans leur ensemble, suivant l'un ou l'autre de ces deux pôles. Il est évident, par exemple, qu'il y a des religions de la matière mère et des religions de l'esprit père. Les religions de la nature ou de l'immanence du divin sont plutôt du premier type, c'est-à-dire les religions plutôt féminines. Et celles qui posent une divinité transcendante, extérieure au monde, sont plutôt du second type, un type masculin. Alors, vous voyez, par exemple, dans l'opéra de Mozart, La flûte enchantée, eh bien, c'est une lutte entre Zarathustra, qui incarne la lumière et le jour, et la fameuse Reine de la Nuit. C'est un opéra maçonnique, où la lumière, justement, comme au début de l'évangile de Jean, dans le fameux prologue, doit triompher des ténèbres. Mais bien entendu, il y a une misogynie dans le traitement de ce thème, dans La flûte enchantée, et moi, je n'irai pas bien sûr jusque-là. Je me contente de dire qu'il y a ces deux pôles, pôle féminin et pôle masculin. Alors aujourd'hui, par exemple, après des siècles d'une culture masculine dominatrice, on voit peut-être se développer des signes réactionnels d'une culture féminine. Et il s'agit donc d'un retour dans le monde antique, je pense à Cybèle, au fameux Corybante, au culte de la grande mère, Magna Mater, auquel Lucrèce, par exemple, fait allusion. Et il y a de même aujourd'hui un renouveau du principe féminin dans les cultes orgiaques ou orgiastiques, un nouveau tribalisme, comme le disait il y a quelques années Michel Maffesoli, un sociologue, dans un livre qui s'appelle « L'ombre de Dionysos ». Le sous-titre, c'est « Contributions à la sociologie de l'orgie ». Je pense aujourd'hui au rôle de la drogue et de l'anéantissement qu'elle permet. Là, l'esprit père s'efface au profit de l'archétype de la mère. La toxicomanie vient peut-être en grande partie de ce que le père aujourd'hui est absent, soit en tant qu'être réel, soit en tant que modèle culturel et social. Lorsqu'un jeune se drogue, il me semble que la mère ne peut pas faire grand chose d'autre que de compatir ou de l'accompagner dans sa dérive. Il y a des cas où rassurer, comprendre et pardonner ne suffisent plus, voyez. Au début, il y avait prévalence absolue du féminin, culte de la grande déesse que l'on adorait pour sa fécondité. Il y avait Cybèle aux multiples seins, polymastée comme on dit en grec. Voyez les poèmes de Baudelaire, « J'aime la majesté de ces époques nues » et aussi le poème intitulé « La géante ». C'est que l'homme ne se sentait pas encore impliqué ou responsable dans la génération, comme un facteur indispensable. Alors l'homme adorait la fécondité comme un miracle à implorer. Voyez les Vénus préhistoriques, par exemple. Voyez aussi l'adoration des hindous pour la mère dans la femme, comme le dit Michaud dans Un barbare à Nazi. Et puis, l'homme a pris conscience qu'il était pour quelque chose dans la transmission de la vie. Alors, tout a changé. Il y a eu émergence et développement du modèle masculin et patriarcal. Alors, les rôles ont été répartis, désormais. La femme, comme je l'ai dit en commençant, a commencé à être redoutée, sentie dangereuse, hystérique, à mesure que se développait le modèle masculin qui incarnait l'exigence morale et la loi, tout cela résumé dans le langage. Alors on a dit « tota mulier in utero », c'est-à-dire la femme entière est dans son utérus, Mais il y a un vestige des formes féminines primitives, par exemple en Grèce, avec le mythe des Amazones, étymologiquement privées d'un sein, le sein brûlé d'une antique Amazone, comme le dit, je crois, Mallarmé. Voilà, eh bien écoutez, je vais vous laisser pour cette semaine. Nous reprendrons cette opposition masculin-féminin, l'opposition du père et de la mère, lors de la prochaine émission. Et j'espère ne pas vous avoir choqué, je suis beaucoup plus dubitatif que peut-être vous ne le pensez sur ces choses-là, mais enfin, je pense qu'il faut parfois donner des modèles d'intelligibilité, se hasarder à produire ces modèles pour classer ces constructions. Voilà, bonne semaine à vous, rendez-vous à la prochaine émission.
« Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.